des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Axel Mauger.
Nous sommes extrêmement heureux aujourd'hui de recevoir, une fois de plus, le professeur Jean Bastier, qui est à la fois professeur émérite de la Sorbonne, un nom de notre très grande université, et aujourd'hui président de la Société de géographie. Alors, nous allons avoir une première émission aujourd'hui avec lui, et elle portera sur un explorateur de très grande qualité qui s'appelle Jules-Sébastien César Dumont-d'Urville. Et je rappelle qu'il est né à Condé-sur-Noireau le 23 1790 et mort à Meudon le 8 mai 1842. Et c'est un explorateur français qui mena de nombreuses expéditions, notamment à bord de l'Astrolabe, et la base antarctique Dumont-d'Urville porta son nom en hommage à ses découvertes. Je rappelle aussi que le professeur Jean Bastier représente la Société de géographie et que ses émissions ont lieu dans le cadre de la Société de géographie. Cher professeur Bastier, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Et alors, qui est un peu ce personnage, qu'évoque pour vous ce personnage de Jules Dumont-d'Urville ?
Alors, Dumont-d'Urville est un marin de la marine militaire française. Il a fini sa carrière comme amiral.
Ah oui, donc une belle carrière.
Il est normand. Il est né, comme vous l'avez dit, à Condé-sur-Noireau. Il a commencé à naviguer très jeune, car à l'époque, cette carrière commençait tôt. Il est né en 1790, c'est-à-dire au tout début de la Révolution française. Et il est entré dans la marine en 1807, c'est-à-dire à 17 ans.
Ah oui, ce qui est très jeune. Très
on entrait même beaucoup plus jeune encore. Ah oui, beaucoup sont entrés à 12 ou 13 ans, comme Mousse, dans la marine. Lui est entré à 17 ans. Il a fait toute sa carrière dans la marine de guerre française, sous l'Empire et ensuite sous les différents régimes de la Restauration. Et il est décédé.
De façon horrible.
Oui, horrible. De façon horrible. Pour un marin, il a été victime d'un accident de chemin de fer.
Un des premiers accidents de chemin de fer.
Un des premiers accidents de chemin de fer, effectivement, qui se soit produit en France, dans la région parisienne.
À Meudon.
Enfin, Meudon-Bellevue.
Oui, tout à fait.
C'était une des premières voies ferrées construites au départ de Paris, qui reliait Paris à Saint-Germain-en-Laye. Et dans un tunnel à Meudon, sur ce trajet relativement court, Paris-Saint-Germain-en-Laye, eh bien, il y a eu un accident ferroviaire. Et les wagons se sont télescopés pour une raison.
Le feu a pris,
les gens ont été brûlés. Il y a eu beaucoup de victimes, 200 et quelques victimes, peut-être même 300 victimes. Sa famille, il est décédé dans cet accident, le chemin de fer, lui qui avait parcouru les océans du monde.
Oui, c'est ça qui est assez
étonnant. Assez paradoxal. Il était allé dans le Pacifique, maintes fois, en Méditerranée d'abord, et puis il va mourir stupidement dans un accident ferroviaire quelques kilomètres de Paris.
Et jeune, relativement jeune. Il avait 52 ans.
52 ans, il est mort en 1842. Louis-Philippe. À 52 ans, il décède dans un accident de chemin de fer. Pour un marin,
C'est curieux, assez accidentel. C'est étonnant. Et alors, cher professeur, il y a certaines choses que l'on ne sait pas, notamment, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas, nous ne connaissons pas de Jules Dumont-d'Urville, mais il est celui qui a ramené à la France la Vénus de Milo.
Oui. Alors, il y a trois événements marquants dans sa vie, si vous voulez.
D'accord.
D'abord, tout jeune, il était chargé de naviguer en Méditerranée et dans la mer Noire sur de petits bateaux. Je crois que le premier s'appelait la Coquille. Puis après, le second s'est appelé l'Astrolabe. Bateau lui a servi pour aller dans le Pacifique.
L'Astrolabe,
pourquoi ? Parce que c'était le nom des deux vaisseaux de la Pérouse qui avaient sombré corps et bien à Vanikoro.
Oui, voilà.
Dans le Pacifique.
Souvenir de la Pérouse.
Le souvenir de la Pérouse était encore très vivace en France, dans la marine, sous la Restauration et le règne de Louis-Philippe.
Et je dirais même jusqu'à aujourd'hui.
Oui, mais encore plus. Aujourd'hui encore, tous les ans, vous savez, il y a la marine française envoie un détachement pour poursuivre les fouilles, enfin les recherches concernant le naufrage de la Pérouse et de ces deux vaisseaux qui ont sombré avec lui dans un détroit, si vous voulez, au large de l'île de Vanikoro.
Alors, quels sont les trois faits marquants?
Le premier fait marquant, il était tout jeune, il naviguait dans la Méditerranée, plus particulièrement en mer Égée, autour des archipels grecs de la mer Égée.
Oui,
et il arrive à un moment où, quelques jours auparavant, on avait découvert, en faisant des fouilles, des archéologues, principalement français, mais il devait y avoir aussi des Grecs avec eux, on venait découvrir la Vénus de Milo.
Extraordinaire, cette fameuse statue sans bras.
Sans bras, sans tête, qui est au Louvre. Vous savez. Bon. Et alors, il a compris tout de suite l'importance de cette statue, ce qu'elle représentait pour l'histoire de la sculpture mondiale, et en particulier pour l'histoire artistique de la Grèce.
Qui date, rappelons-le, du 130 années avant Jésus-Christ.
Il a compris tout de suite, et c'est en grande partie grâce à lui que cette statue qui venait d'être découverte a été achetée par la France et est venue finir ses jours à Paris, au Louvre.
Formidable.
Donc, il a eu déjà
la prescience de
comprendre l'importance de cette statue pour l'histoire de la sculpture mondiale, et grecque en particulier.
Et de l'humanité.
Donc, voilà, c'est déjà un premier fait à mettre
à son... Donc ça, c'est le premier fait
marquant de sa vie.
Le deuxième.
Le deuxième, c'est que c'est lui qui, le premier, a découvert les restes de l'expédition de la Pérouse, des deux vaisseaux qui ont sombré en même temps, vous savez, l'Astrolabe et la Boussole, je crois, l'Astrolabe et la Boussole, qui étaient les deux vaisseaux de la Pérouse, qui ont sombré ensemble au cours d'un orage, d'une tornade.
Ça a intrigué, cette disparition de la Pérouse.
Ah, mais ça a intrigué, parce que la Pérouse, vous le savez, l'expédition avait reçu l'appui de Louis XVI, et qui avait donné... Louis XVI n'était pas le roi inculte que d'aucun prétend. C'était un roi qui s'intéressait beaucoup à la géographie, à la navigation, aux cartes. Et Louis XVI avait tenu absolument à ce que l'expédition à la Pérouse se fasse et qui avait dégagé les moyens nécessaires pour cette exposition qui était partie pour au moins 2 ou 3 ans faire le tour du Pacifique.
Oui, ce qui était à l'époque quand même...
En réalité, pour... concurrencer celle de Cook.
Ah oui.
Les Cook qui a découvert l'Australie, vous le savez, 8 jours avant nous, à peine.
Bien sûr, oui.
Si la Pérouse était arrivée à aborder en Australie du côté de Sydney, exactement à Botany Bay, il y a un musée d'ailleurs à Botany Bay, un musée français, qui évoque ce passage de la Pérouse à Botany Bay, c'est le premier point de la côte australienne où la Pérouse a abordé.
Ah oui, c'est tout de
bon, il y a un musée là que j'ai visité d'ailleurs qui rappelle ce souvenir. C'est à 15 km au sud de Sydney à peine.
L'Australie aurait pu être aussi française.
Voilà.
Certaine façon.
En extrapolant un peu, on pourrait dire que si la Pérouse était arrivée 8 ou 10 jours ou 15 jours plus tôt, pourquoi l'Australie ne serait-elle pas devenue française plutôt? En réalité, la Grande-Bretagne était capable d'alimenter une émigration vers l'Australie infiniment plus importante que celle que nous pouvions.
Il n'y
a qu'à comparer avec le Sahara, où très tôt les Français ont été 10 fois moins nombreux que les Anglais.
Et c'est très vrai.
Quelque chose, il se serait passé avec l'Australie, vraisemblablement, la même chose qu'avec le Canada.
Oui, et
donc
puis
il ne faut pas trop extrapoler.
Le seul problème, c'est que la démographie, comme vous le savez, la démographie française était beaucoup plus importante que l'anglaise, mais la population anglaise vivait beaucoup moins bien dans l'ensemble que la population française. Et donc les Anglais avaient besoin de s'expatrier pour eux.
D'accord, mais surtout les Anglais
étaient
beaucoup plus attirés par les mers que les Français.
Étaient attirés
par les mers, les Normands, les Bretons, les gens du littoral du nord de la France un peu, les gens de Saint-Jean-de-Luz, et puis c'est tout. Alors, tout le reste de la France se désintéressait de tout ce qui pouvait se passer sur les mers et outre-mer.
Et alors, pour revenir,
nous étions omnubilés par la frontière de l'Est, du Nord et de l'Est. Les Anglais n'avaient pas les mêmes problèmes de frontières continentales que nous. Donc, ils étaient attirés beaucoup plus par la mer et par conséquent, très tôt... Mais nous avons pendant longtemps supporté la comparaison, avec l'Angleterre.
Importante.
La Grande-Bretagne.
Pour revenir alors à ce deuxième fait marquant.
Alors, il a découvert, c'est le premier qui a pu apporter la quasi-certitude que la Pérouse avait sombré avec ses deux vaisseaux au large de Vanikoro, sur les côtes de l'île de Vanikoro.
Oui, donc ça, c'est fondamental.
Parce qu'en arrivant là-bas, il a trouvé des vestiges, des morceaux de vaisseaux, des canons, des ancres, tas d'objets qui ont prouvé, prouvé d'une manière définitive, le naufrage. Peut-être pas les circonstances. Les circonstances, il a fallu attendre plus longtemps pour découvrir les vraies circonstances du naufrage.
Et les vraies circonstances, qu'est-ce que c'était ?
Eh bien, c'était l'orage, et les vaisseaux étaient mal abrités, ils ont heurté des récifs de coraux. Nous avons dans notre siège, ici, tout près d'ici, un morceau du récif de Vanikoro sur lequel se sont échoués des vaisseaux de la Pérouse et ont fini par sombrer.
On n'a jamais retrouvé de corps de squelette, je veux dire.
Tout récemment, il y en a un ou deux, on a découvert un squelette. Vous savez, on a fait, grâce au progrès des recherches basées sur l'ADN, on a fini par découvrir. On se demande si c'est un officier ou un marin ou un chirurgien de marine, vous savez, qui a sombré là. Non, les recherches ne sont pas encore terminées.
Alors, je rappelle que...
Dumont-Durville, c'est le premier qui a rapporté la quasi-certitude que la disparition de la Pérouse était effectuée là et dans lesquelles circonstances.
Et pas ailleurs.
Parce que l'incertitude a régné entre 1790 et 1840 ou 30,
oui,
35,
1830, oui.
Environ pendant un demi-siècle, l'incertitude a régné.
Ah oui, donc
et c'est lui qui a levé, c'est Dumont-Durville qui a levé l'incertitude quant aux conditions de la disparition de la Pérouse et de son escadre.
Alors, je rappelle que son expédition dura à peu près 35 mois. Je parle évidemment du Dumont-Durville, qui procura la géographie, à la navigation, la reconnaissance positive de plus de 4000 lieues de côtes les moins connues du globe sur la Nouvelle-Irlande, la Nouvelle-Bretagne et la Nouvelle-Guinée. Elle assura la position de près de 200 îles ou îlots, dont une soixantaine n'avait encore figuré sur aucune carte. Il découvrira les îles Fidji, cartographiera les îles Loyauté, effectuera un relevé des côtes de la Nouvelle-Zélande, entreprendra une exploration des îles Tonga et des Moluques. Ses rapports ont permis la classification des îles en Mélanésie, Polynésie et Micronésie. Et alors, ce qui est curieux, c'est que parfois, quand on lit comme vous le savez, des documents sur Dumont-Durville, on dit que ces subdivisions, c'est-à-dire Mélanésie, Polynésie et Micronésie, sont désormais contestées par les géographes et les linguistes, mais continuent d'être utilisées. Pourquoi sont-elles contestées par les géographes et les linguistes, cette classification des îles en Mélanésie, Polynésie et Micronésie?
Oui, mais parce que cette classification est assez superficielle.
Ah oui.
Elle
ah
ne
oui.
tient compte oui. ni des différences relatives au fond marin, à la nature géologique des îles, au climat. Bon, c'est basé essentiellement en Micronésie, ça veut dire une multitude de petites îles.
Petites îles, c'est ça. Oui.
Bon, petites îles. Oui. Mais elles ne sont pas beaucoup plus petites qu'ailleurs,
oui.
ni plus nombreuses.
C'était pour faire une classification,
Est tout à fait superficielle, à l'usage du grand public peut-être, mais qui ne repose sur aucune base scientifique.
Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, quel est le troisième fait marquant ?
Alors, le troisième fait marquant, c'est qu'à la suite de ce voyage dans le Pacifique et notamment aux environs de Vanikoro, qui ont fait découvrir l'explication de la disparition de la Pérouse, qui a été noyé avec tout son équipage, il y a aussi le problème des survivants. Pendant longtemps, on s'est demandé, est-ce qu'il n'y aurait pas eu des survivants ? Et encore aujourd'hui, on discute sur les survivants possibles, éventuels, et la descendance des survivants.
Et d'après ce qu'on sait,
il existe encore des doutes.
Il y aurait des survivants ou pas ?
Il semble qu'il y aurait eu des survivants, notamment un chirurgien de marine qui s'appelait Lavaux. Il semblerait qu'il se soit sauvé et qu'il ait procréé dans des îles voisines. Mais aujourd'hui, les recherches ne sont pas terminées. Peut-être qu'avec l'ADN,
on
va essayer de voir si vraiment il y a eu des descendants de survivants de la Pérouse. qui aurait survécu au naufrage pendant X années et qui aurait se serait
avec un métissage
perpétué
possible,
avec, évidemment, bien sûr. Évidemment, évident. Il pouvait y avoir que métissage. Non,
incroyable.
Il
n'y
avait aucune femme à bord des vaisseaux de la Pérouse, aucune femme européenne. Hein. Bon, donc voilà, il y a encore une incertitude.
On pense qu'il y a eu des survivants. On n'en est pas sûr, mais on pense.
Certains pensent, d'autres pensent que non.
Dubitatif.
Bon,
oui,
bon,
oui.
Il y a encore,
on peut supposer qu'à
encore
la suite d'un naufrage,
des énigmes à résoudre
oui.
Quant à la survivance de quelques marins et survivance éventuelle de quelques marins de la Pérouse.
Alors, bon, n'oublions pas tout de même aussi que Dumont d'Urville a écrit des mémoires scientifiques tout à fait remarquables, comme par exemple une flore des Malouines.
Oui.
Et alors,
oui,
c'est intéressant, une flore des Malouines, mais en latin.
Ah oui, parce qu'à l'époque, le latin était la langue universelle des savants, et notamment en matière de botanique. Vous savez qu'en botanique, toutes les plantes ont un nom dans la langue du pays où elles se trouvent, en français par exemple, mais aussi en latin.
Et alors donc, pour les Malouines, vous aviez 1200 espèces d'insectes, dont 300 nouvelles, ce qui est quand même considérable.
Oui, évidemment, ça n'avait rien à voir avec la flore et la faune européenne, évidemment. C'est évident.
Donc des travaux tout à fait importants.
Oui, remarquables.
Alors, nous arrivons au troisième fait marquant.
Alors, le troisième fait marquant, c'est qu'à la suite de ces expéditions, dont Vanikoro, c'est-à-dire à la latitude de la Nouvelle-Calédonie, de ses archipels, les Samoa, les Fidji, etc., c'est à cette latitude-là à peu près. Il s'est beaucoup intéressé au sud de le Pacifique aux terres de l'Antarctique.
Voilà, donc on arrive.
Et Dumont d'Urville, c'est le premier Européen qui a fait progresser énormément la connaissance du continent antarctique.
Ah oui, donc là, c'est considérable.
D'où d'ailleurs aujourd'hui, notre base s'appelle
Dumont d'Urville.
Et c'est grâce à lui, il a baptisé aussi la Terre Adélie. Adélie, c'était le nom de la femme de Louis-Philippe, de la reine de France, épouse de Louis-Philippe. Bon, Terre Adélie, Dumont d'Urville, son propre nom a été donné à une terre de l'Antarctique qui a donné son nom à la base que nous entretenons, et c'est grâce à lui que la France occupe une place prééminente dans la découverte de l'Antarctique et dans toutes les études faites depuis sur l'Antarctique.
Mais elle a une base, mais elle ne possède pas de terre.
Hein, non, parce que l'Antarctique, vous le savez, c'est un cas à part dans la distribution, dans le partage de la souveraineté des États sur les continents et sur les océans. La souveraineté sur les continents entraîne, vous le savez, la souveraineté sur les océans et les mers qui bordent les 10 continents. Bon, tout cela, eh bien, dans l'Antarctique, contrairement à ce qui existe dans le reste du monde, il n'y a pas de partage définitif entre les puissances maritimes mondiales.
Donc, il n'y a pas vraiment de propriétaire de l'Antarctique.
Voilà, il y a
des dépositaires.
Bon, provisoirement. Oui. Tout a été en quelque sorte gelé sur le plan du droit international.
D'accord.
Plan du droit international, du partage des mers et des océans et des continents. Donc, pour éviter une rivalité. La découverte de l'Antarctique est encore gérée, si vous voulez, sur un plan international, par accord entre les différents États qui financent des recherches là-bas. Il y a la France, il y a évidemment les États voisins, l'Argentine, le Chili, vous voyez. Puis l'Angleterre, évidemment, les États-Unis, vous voyez.
Et la Russie, non ?
Je crois aussi. Que la Russie, il y a un certain temps, a déjà obtenu une sorte de droit de participation aux recherches sur l'Antarctique.
Alors, pour conclure, Dumont d'Urville.
Et Dumont d'Urville est à l'origine. De l'importance que conserve encore la France dans l'exploration et la connaissance de l'Antarctique.
Et nous n'oublions pas, alors donc ça, vous parliez en début des missions de sa mort tragique, eh bien en effet, c'est une mort tragique et il est enterré, pour ceux qui veulent le savoir, au cimetière du Montparnasse à Paris, il va s'en dire.
Alors je pourrais rajouter, si vous voulez, à propos de Dumont d'Urville, que sa tombe a été édifiée par nous, Société de géographie, à la suite d'une souscription publique que nous avons lancée à l'époque, oui. Nous avons fait construire le monument qui est classé, je crois, oui. Monument historique, de sa tombe au cimetière Montparnasse. Elle nous appartient encore et c'est nous qui l'entretenons.
Ah oui, donc, oui,
qui l'entretenons. Il a joué quand même un rôle important dans l'histoire de la Société Géographie.
Très bien. Alors voilà, sur des paroles qui montrent l'importance de la fraternité pour la Société de Géographie, l'humanisme. Et je rappelle aussi le récit des voyages de Dumont-d'Urville, fut publié en 24 volumes avec 6 volumes d'illustrations. Donc un travail considérable de mémoire, de relations de voyage et une source partielle, outre évidemment tous les travaux parus dans la revue de la Société de Géographie. Vous avez un livre quand même que je peux peut-être rappeler, ou bien disons un chapitre, Jules Dumont-d'Urville dans Marie-Nicolas Bouillet et Alexis Chassang, qui sont les directeurs du Dictionnaire universel d'histoire et de géographie 1878. Donc je vous remercie infiniment, cher professeur Bastier, et nous allons nous retrouver dans une autre émission pour évoquer un autre explorateur de grand talent, il va sans dire. Merci.